Chapitre 2. La théorie des 21 grammes. Une partie de ce qui nous attire chez les artistes est leur altérité, leur refus du conformisme, leur majeur brandi au visage de la société. Jess Kellerman. 1. Pour être honnête, je ne suis pas certain de bien comprendre ce que vous me reprochez, Mademoiselle Green. Crinière argentée et buste bombée, Bernard Bénédic donnait l'impression de monter la garde devant une grande toile monochrome exposée au fond de sa galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Comme s'il avait perdu récemment du poids, il flottait dans sa chemise à col Mao et sa veste forestière vert absinthe. De grosses lunettes Le Corbusier lui mangeaient le haut du visage, mais faisaient ressortir ses yeux ronds, son regard vif et pétillant. L'annonce du site était mensongère, répéta Madeleine en haussant le ton. Jamais il n'était mentionné qu'il s'agissait d'une colocation. Le galeriste secoua la tête.
La maison de Sean Lawrence n'est pas proposée en colocation, assura-t-il.
Regardez par vous-même, s'exaspéra Madeleine en lui tendant deux feuilles imprimées. Son propre contrat de location ainsi que celui, identique, que lui avait montré ce Gaspard Coutances, avec qui elle s'était retrouvée nez à nez en sortant de son bain une heure plus tôt. Le galeriste prit les papiers et les parcourut avec l'air de ne rien y comprendre.
« En effet, il a l'air d'y avoir une erreur », finit-il par admettre en triturant ses lunettes. « Il s'agit sûrement d'un bug informatique, mais pour être franc, je ne connais pas grand-chose à tout cela. C'est Nadia, l'une de nos stagiaires, qui s'est occupée de faire passer l'annonce sur le site. » Je pourrais essayer de la joindre, mais elle est partie ce matin même à Chicago pour les vacances et...
J'ai déjà envoyé un mail sur l'interface du site, et ça ne résoudra pas mon problème, l'interrompit Madeleine. L'homme qui se trouve actuellement dans la maison vient des États-Unis, et il n'a pas l'intention de repartir.
Le visage du galeriste s'assombrit.
Je n'aurais jamais dû louer cette maison. Même depuis sa tombe, Lawrence continue à me pourrir la vie, maugréa-t-il, en colère contre lui-même.
Il soupira, agacé.
Vous savez quoi ? Trancha-t-il. Je vais vous rembourser.
Je ne veux pas d'argent. Je veux ce qui était convenu. Habiter dans la maison. Toute seule.
Madeleine appuya sur ces mots en sentant vibrer en elle cette conviction irrationnelle qu'elle devait habiter cet endroit.
Dans ce cas, je vais rembourser ce monsieur Coutances. Vous voulez que je l'appelle ?
Vous n'allez pas me croire, mais il n'a pas le téléphone.
Eh bien, transmettez-lui ma proposition.
Je ne l'ai croisé que 5 minutes, il n'a pas l'air commode.
Vous non plus, vous n'avez pas l'air commode,
rétorqua Bénédic en lui tendant une carte de visite.
Appelez-moi quand vous lui aurez parlé. Et si vous voulez faire un tour dans la galerie, ça me laissera le temps de lui rédiger un petit mot pour m'excuser et lui proposer de le dédommager.
Madeleine glissa le rectangle de carton dans la poche de son jean et tourna les talons sans remercier son interlocuteur, doutant de l'effet que ferait le mot du galeriste à ce Coutances, manifestement une sorte d'ours agressif et buté. C'était l'heure du déjeuner. Comme il n'y avait pas foule, Madeleine prit le temps de jeter un coup d'œil au tableau. La galerie était spécialisée dans l'art urbain et contemporain. Dans la première salle, n'étaient exposées que des toiles de très grand format, toutes intitulées « Sans titre ». Des surfaces monochromes, des aplats de couleurs tristes, lardés de coups de cutter et troués de clous rouillés. La deuxième pièce, par contraste, débordait de couleurs vives et d'énergie. Les œuvres exposées étaient à la frontière entre le graffiti et la calligraphie asiatique. Madeleine les observa avec intérêt, mais sans affect. Ce genre de tableau la laissait souvent à distance. À dire vrai, elle n'avait jamais été sensible à l'art contemporain. Comme tout le monde, elle avait lu des articles et vu des reportages sur le succès d'artistes stars, le crâne en diamant de Damien Hirst et ses animaux figés dans le formol, les homards de Jeff Koons qui avaient créé la polémique au château de Versailles, les coups d'éclat provocateurs de Banksy, le sapin en forme de sextoy de Paul McCarthy qui avait été vandalisé place Vendôme. Mais elle n'avait pas encore trouvé la clé qui lui permettrait d'accéder à cet univers. Dubitative, elle pénétra néanmoins dans la dernière salle, où étaient présentées des œuvres hétéroclites. « Ça, c'est du grand n'importe quoi », jugea-t-elle, en s'attardant un peu malgré elle, devant une série de sculptures gonflables aux couleurs acidulées et en forme de phallus, puis sur des personnages de manga version porno moulés dans de la résine rose. L'exposition se poursuivait avec deux grands squelettes figés dans une position extrême du Kama Sutra, des sculptures monumentales en briques de Lego et une statue de chimère en marbre blanc dans laquelle la tête et le buste de Kate Moss étaient affublés d'un corps de lion. Plus loin, au fond de la pièce, on avait exposé une collection d'armes, fusils, tromblons, arquebuses, réalisées avec des matériaux de récupération, boîtes de sardines, ampoules usagées, ustensiles de cuisine en ferraille ou en bois, assemblés à l'aide de fils de fer, de chatterton et de bouts de ficelle.
« Vous aimez ?»
Madeline sursauta en se retournant. Absorbée dans la contemplation des œuvres, elle n'avait pas entendu Bernard Bénédicte arriver.
« Je n'y connais rien, mais a priori, ce n'est pas ma came. »
« Et c'est quoi, votre came, au juste ?»
demanda le galeriste amusé en lui tendant une enveloppe qu'elle enfouit dans la poche de son jean.
« Matisse, Brancusi, Nicolas de Staël, Giacometti. »
« Je vous accorde bien volontiers qu'on n'est pas ici au même niveau de génie, » sourit-il en désignant notamment la forêt multicolore de sexe en érection. « Vous allez rire, mais c'est ce que je vends le mieux en ce moment. »
Madeline eut une moue dubitative.
« Vous avez des œuvres de Sean Lawrence ici ?»
Jusqu'alors jovial, le visage de Bénédicte se ferma.
« Non, malheureusement. » Lawrence était un artiste qui peignait peu. Ses œuvres sont presque introuvables aujourd'hui et valent des fortunes.
Quand est-il mort exactement ?
Il y a un an. Il avait à peine 49 ans.
C'est jeune pour mourir ?
Bénédicte acquiesça.
Sean a toujours eu une santé fragile. Il souffrait de problèmes cardiaques depuis longtemps et avait déjà subi plusieurs pontages.
Vous étiez son galeriste exclusif ?
L'homme grimaça tristement.
J'ai été son premier galeriste, mais j'étais surtout son ami, même si on se fâchait souvent.
L'étoile de Lorenz ressemble à quoi ?
À rien de connu, justement,
s'exclama-t-il.
Lorenz, c'est Lorenz.
Mais encore,
insista Madeline. Bénédicte s'anima.
Sean était un peintre inclassable, il n'appartenait à aucune école et n'était prisonnier d'aucune chapelle. Si vous cherchez une analogie avec le cinéma, disons qu'on peut le rapprocher de Stanley Kubrick, un artiste capable de créer des chefs-d'œuvre dans des genres très différents.
Madeline hocha la tête. Elle aurait dû partir, aller régler cette histoire avec son colocataire indésirable, mais quelque chose la retenait ici. Elle avait vécu la découverte de la maison du peintre comme une telle rencontre qu'elle voulait en savoir davantage.
C'est à vous qu'appartient l'atelier de Lorenz aujourd'hui ?
Disons que j'essaye de le préserver des créanciers de Sean. Je suis son héritier et son exécuteur testamentaire.
Ces créanciers ? Vous disiez que les œuvres de Lorenz étaient hors de prix.
C'est le cas, mais son divorce lui avait coûté cher et il ne peignait plus depuis plusieurs années.
Pourquoi ?
À cause de sa maladie et de problèmes personnels.
Quel problème ?
Bénédicte s'agaça.
Vous êtes de la police ?
Oui, justement. Sourit Madeline.
C'est-à-dire ?
S'étonna-t-il.
J'ai été flic pendant plusieurs années,
expliqua la jeune femme.
À la brigade criminelle de Manchester, puis à New York.
Vous enquêtiez sur quoi ?
Elle haussa les épaules.
Les homicides, les enlèvements.
Bénédicte plissa les yeux comme si une idée venait de lui traverser l'esprit. Il regarda sa montre, puis désigna à travers la vitre le restaurant italien de l'autre côté de la rue dont la devanture noire et les lambrequins dorés rappelaient la voilure d'un bateau pirate.
« Vous aimez le saltimbocca ? »
demanda-t-il.
« J'ai un rendez-vous dans une heure, mais si vous voulez en savoir plus sur Sean, je vous invite à déjeuner. »
2. Une brise tiède faisait frémir et onduler les branches d'un vieux tilleul planté au milieu de la cour intérieure. Assis sur la table de la terrasse, Gaspard Coutances savoura une gorgée de vin. Le Gevrey Chambertin était délicieux. Équilibré, intense, ample et souple en bouche, avec des arômes fruités de cerises noires et de cassis. Pourtant, le plaisir de la dégustation était gâché par l'incertitude qui pesait sur la location de la maison. « Bon sang, » ragea-t-il.
Il est impossible que je me laisse déloger par cette fille. Il voulait écrire sa pièce de théâtre ici. Ce n'était même plus une question de principe, mais de nécessité. Pour une fois qu'il avait un coup de foudre, il se refusait à rendre les armes alors qu'il était dans son bon droit. Mais cette Madeleine Green avait l'air coriace. Elle avait insisté pour lui prêter son téléphone afin qu'il puisse appeler son agent. Bien qu'elle ne fût pas directement responsable de la situation, Karen s'était confondue en excuses et l'avait rappelé 10 minutes plus tard, l'informant qu'elle lui avait réservé une suite au Bristol en attendant que les choses s'arrangent. Mais Gaspard avait refusé tout net et posé un ultimatum. C'était cette maison ou rien. Soit Karen trouvait une solution, soit elle pouvait dire adieu à leur collaboration. Généralement, ce type de menace avait le pouvoir de transformer Karen en guerrière. Mais cette fois, il craignait que ce ne soit pas suffisant. Nouvelle gorgée de Bourgogne. Chant des oiseaux. Douceur de l'air. Soleil d'hiver qui réchauffe le cœur. Gaspard ne put s'empêcher de sourire, tant il y avait quelque chose de comique dans cette situation. Un homme et une femme qui, à cause d'une erreur informatique, se retrouvaient à louer la même maison pour Noël. Ça ressemblait à un début de pièce de théâtre. Pas au truc intello et cynique qu'il écrivait lui-même, mais à quelque chose de plus joyeux. Une de ces pièces des années 1960 et 1970, écrites par Barrier et Grédy, qu'affectionnait son père, et qui avait fait les grandes heures du théâtre Antoine ou des bouffes parisiens. Son père. Ça ne manquait jamais. Chaque fois que Gaspard venait à Paris, les souvenirs de son enfance, des braises qu'il croyait éteintes, se ravivaient. Pour ne pas se brûler, Gaspard chassa cette image de son esprit avant qu'elle ne devienne trop douloureuse. Avec le temps, il avait appris qu'il valait mieux garder ce genre de souvenirs à distance. Question de survie. Il se resservit du vin et son verre à la main quitta la terrasse pour déambuler dans le salon. Il fut d'abord attiré par la collection de 33 tours. Des centaines de disques de jazz, soigneusement rangés et classés sur des étagères en chaîne naturelle. Il posa sur la platine un vinyle de Paul Bley, dont il n'avait jamais entendu parler, et pendant un moment se laissa porter par le son cristallin du piano, en détaillant les cadres accrochés au mur. Il n'y avait ni dessin, ni peinture, seulement des photos de famille en noir et blanc. Un homme, une femme, un petit garçon. L'homme, c'était Sean Lawrence. Gaspard le reconnut parce qu'il se souvenait d'avoir vu son portrait, pris par l'artiste anglaise Jane Bone, dans la nécrologie parue dans Le Monde en décembre dernier. L'original grand format de la photographie se trouvait devant lui. Une haute silhouette, une stature imposante, un visage émacié en lame de couteau, un regard énigmatique qui semblait tour à tour inquiet et déterminé. La femme de Lawrence n'était présente que sur 2 clichés. Ses poses ressemblaient à celles que prenaient Stephanie Seymour ou Christy Turlington sur les couvertures des magazines de mode il y a 25 ans. Une beauté des années 1990, élancée, sensuelle, rayonnante. Mince sans être squelettique, radieuse sans paraître inaccessible. Mais les photos les plus nombreuses étaient celles de Lawrence avec son fils. Le peintre était peut-être un homme austère, mais quand il était avec son enfant, un blondinet à la bouille craquante et au regard pétillant, sa morphologie se métamorphosait comme si la joie de vivre du gamin déteignait sur le père. Dernier cliché de cette exposition familiale, 2 tirages plutôt joyeux montraient Lawrence en train de peindre avec des enfants de 5 ou 6 ans, parmi lesquels on reconnaissait son fils dans ce qui devait être une école ou un cours de peinture à destination des plus jeunes. Dans la bibliothèque, au milieu des Pléiades et des éditions limitées publiées chez Taschen ou Assouline, Gaspard mit la main sur une monographie consacrée à l'œuvre de Lawrence. Une somme de près de 500 pages, luxueusement reliée et dont le poids dépassait à coup sûr les 3 kilos. Gaspard posa son verre sur la table basse et s'installa dans le canapé pour parcourir le livre. L'honnêteté l'obligeait à reconnaître qu'il ne connaissait pas les œuvres de Lawrence. En peinture, ses goûts le portaient davantage vers l'école flamande et l'âge d'or néerlandais. Van Eyck, Bosch, Rubens, Vermeer, Rembrandt. Il feuilleta la préface, signée par un certain Bernard Bénédic,
qui promettait une analyse approfondie du travail de Lorenz et l'accès à des archives inédites. Dès les premiers mots, Gaspard apprécia le ton libre et direct que prenait Bénédicte pour planter les grandes lignes de la biographie du peintre. Sean Lorenz était né à New York, au milieu des années 1960. C'était le fils d'une gouvernante, Elena Lorenz, et d'un médecin de l'Upper West Side qui ne l'avait jamais reconnu. Fils unique, le futur peintre avait passé son enfance et son adolescence avec sa mère, dans les Polo Ground Towers, une cité HLM au nord de Harlem. Bien qu'elle tirât le diable par la queue, sa mère s'était saignée aux quatre veines pour envoyer son fils dans un établissement privé protestant. Mais le jeune Sean ne s'était pas montré digne de ce sacrifice. C'est à la fin de l'adolescence, entre deux larcins, qu'il avait commencé à peindre, ou plutôt à taguer les murs et les métros de Manhattan, au sein d'un collectif de graffeurs qui se faisait appeler les Artificiers. Gaspard observa les photos d'époque reproduites dans l'ouvrage. On y voyait Sean, à 20 ou 25 ans, allure juvénile mais visage déjà tourmenté, vêtu d'un manteau noir trop grand pour lui, d'un t-shirt barbouillé de peinture, d'une casquette de rappeur et d'une paire de Converse fatiguées. Armé de ses bombes aérosols, il était sur la plupart des clichés, accompagné de deux complices, un hispanique fluet aux traits fins et une fille très forte et un peu masculine, toujours coiffée d'un bandeau d'indienne. Les fameux artificiers qui recouvraient de graffes rageurs les wagons, les palissades et les murs éventrés. Des clichés un peu flous, aux grains sales, pris dans les entrepôts, les terrains vagues et les souterrains du métro. Des clichés qui ravivaient le New York sauvage, crade, violent et stimulant que Gaspard avait connu lorsqu'il était étudiant. 3.
Les années 1980, c'était la grande époque du graffiti à New York, expliqua Bernard Bénédicte en entortillant ses spaghettis autour de sa fourchette. Pour se réapproprier la ville, des gamins comme Sean barbouillaient de peinture tout ce qui leur tombait sous la main. Les rideaux de fer des magasins, les boîtes aux lettres, les bennes à ordures et bien sûr, les wagons de métro.
Assise en face du galeriste, Madeleine l'écoutait attentivement en grignotant sa salade de poulpe. Après avoir posé ses couverts sur la table, Bénédicte attrapa dans sa poche un smartphone grande taille et fouilla dans l'application de photos pour sélectionner un répertoire d'images consacré à Sean Lorenz.
Regardez ça, dit-il en tendant l'appareil à Madeleine.
La jeune femme balaya l'écran de l'iPhone pour faire défiler des clichés numérisés datant de cette époque. Lortz 74, ça veut dire quoi ? Demanda-t-elle en pointant le sigle bombé qui revenait sur beaucoup de réalisations.
C'était le pseudonyme de Sean. C'est courant chez les graffeurs d'associer leur nom et le numéro de leur rue.
Les deux autres personnes à côté de Lorenz, c'est qui ?
Des jeunes de son quartier avec qui il traînait alors. Leur groupe se faisait appeler les Artificiers. Le petit Minet Latino signait ses graffitis avec le pseudonyme Night Shift. Mais il a rapidement disparu des radars. La fille, qui ressemble à un bulldozer, c'est autre chose. Une artiste très douée, connue sous le nom de Lady Bird, l'une des rares femmes dans le monde du graffiti.
Madeleine continua à visionner les dizaines de photos stockées par Bénédicte. Le New York des années 1980 et 1990 avait peu de ressemblance avec la ville qu'elle avait connue. On devinait une ville jungle, âpre, des quartiers sous la coupe des gangs, des existences ravagées par le crack. En contrepoint de cette misère, les couleurs vives des graffitis éclataient comme des feux d'artifice. La plupart des peintures de Lorenz consistaient en des lettres énormes et colorées, rondes comme des ballons gonflés à l'hélium, qui se chevauchaient et s'entrelaçaient dans la pure tradition Wild Style. Madeleine songea au mur de la cité de Manchester dans laquelle elle avait passé son adolescence. Cet alphabet labyrinthique, enchevêtrement chaotique de flèches et de points d'exclamation, provoquait chez elle des sentiments contraires. Si elle en détestait le côté anarchique et transgressif, elle était forcée de reconnaître que ses fresques vitaminées avaient au moins le mérite de combattre la tristesse et la grisaille du béton.
« Si je résume, » reprit le galeriste, « au tout début des années 1990, Sean Lorenz est un petit délinquant qui traîne avec sa bande en se cramant le cerveau à l'héroïne. C'est aussi un graffeur plutôt doué, assez technique, et qui est capable de faire des choses intéressantes.
mais rien de transcendant, devina Madeleine.
Sauf que tout va changer à partir de l'été 1992.
Que s'est-il passé?
Cet été-là, Sean Lawrence croise à Grand Central une jeune Française de 18 ans et en tombe raide amoureux. Elle s'appelle Penelope Kurkowski. Sa mère est corse, son père polonais. Elle travaille à New York comme jeune fille au pair, mais en parallèle, elle court les castings pour essayer de devenir mannequin.
Le galeriste marqua une pause, le temps de se servir un verre d'eau pétillante.
Pour attirer l'attention de Penelope, Sean va se mettre à la peindre sur tout ce que New York compte de rames de métro. Pendant 2 mois, il réalisera un nombre impressionnant de fresques, mettant en scène sa dulcinée.
Il récupéra son téléphone pour y chercher d'autres photos tout en expliquant
« Lawrence n'est pas le premier graffeur à déclarer son amour à une femme à travers ses peintures. Cornbread et John Wan l'avaient fait avant lui. Mais c'est le seul à l'avoir traduit de cette façon. »
Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il posa l'iPhone sur la table et le fit glisser en direction de Madeleine. La jeune femme approcha son visage de l'écran. Ce qu'elle y découvrit la laissa bouche bée. Les peintures étaient une ode à la beauté féminine, à la volupté et à la sensualité. Si les premières fresques étaient sages, presque romantiques, les suivantes devenaient beaucoup plus impudiques. Penelope y apparaissait comme une femme liane, multiple, à la fois aérienne et aquatique, qui se déployait de wagon en wagon. Parée de feuillages, de roses et de fleurs de lys, son visage était encadré de cheveux fous qui flottaient, ondulaient, s'entrelaçaient pour former des arabesques aussi élégantes que menaçantes.